En raison d'un problème lors de l'enregistrement et d'un manque de place sur le disque dur, la troisième partie de l'émission MacGuffin ne pourra être diffusée. On s'excuse. On vous retrouve néanmoins la semaine prochaine. La machine nous ayant fait défaut cette semaine, on va arrêter de parler de science-fiction et on va repartir sur un nouveau cycle. On remercie quand même la technique Agathe et Alexandre. On remercie Syllab, on remercie Sénard. Et n'oubliez pas que la semaine prochaine sort la version papier du MacGuffin. Merci.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette quatrième émission du MacGuffin, toujours sur Syllab. Aujourd'hui, nous terminons notre cycle dédié à la science-fiction et nous étions obligés de parler d'un grand réalisateur qui s'appelle John Carpenter. Avec moi, autour de la table, toute l'équipe du MacGuffin encore, avec celui qu'on appelle désormais Quack.
Oui, bonjour, c'est moi.
Mais aussi Simon.
Bonjour.
Et aussi Denis qui revient parmi nous.
Eh bien, bonjour Flo, bonjour à tous. Et à propos de Flo, n'oublions pas de présenter notre présentateur, Florian Baudin.
Merci beaucoup. Je vais peut-être te laisser du coup enclencher tout de suite en fait la discussion, Simon, pour nous présenter John Carpenter.
Parce ouais, on va
pas perdre de temps.
Ouais, une petite piqûre de rappel pour ceux qui connaissent pas ou peu le cinéma de John Carpenter. Donc c'est un cinéaste qui débute dans la seconde moitié des années 70 aux États-Unis après avoir fait sa formation en Californie. Il va vite devenir une sorte de référence dans le monde du cinéma de science-fiction et le cinéma d'horreur. Donc il fait un premier film de fin d'études en 1974 qui s'appelle Dark Star, dont il sera un peu question dans cette émission. Le film qui va vraiment lancer sa carrière et le faire connaître auprès des grands studios qui vont après financer une partie de ses films, c'est sans doute Halloween, La Nuit des Masques, qui va devenir une série un peu culte. Donc, il va réaliser le premier épisode et après il produira les épisodes qui vont suivre. Au début des années 80, il a une période où il fait des films à budget assez conséquent avec les studios. On peut penser à The Thing, notamment en 82. En 86, en revanche, il fait un film qui va être un bide complet, qui ne va pas du tout marcher en salle, qui est, il me semble, Les Aventures de Jack Burton dans Les Griffes du Mandarin. Je ne connais pas le titre original, pardon, mais le titre
c'est
français
Big
est assez
Trouble,
fameux.
Big Trouble in Little China, qui est quand même assez rigolo aussi.
Qui est quand même assez rigolo aussi. Du coup, voilà, donc à la fin des années 80, il va faire des films un peu moins, avec beaucoup moins de budget, un peu plus indépendant. Il va y avoir certains chefs-d'œuvre, avec notamment Prince des Ténèbres en 87, qui est quand même, je pense, un des meilleurs. Au début des années 90, il repart sur une série avec des plus gros studios, des films avec plus de budget avant l'échec commercial de Ghosts of Mars en 2001, qui va le plonger dans une période où il ne pourra pas réaliser pendant une dizaine d'années. Et il sortira un film au tout début des années 2010 qui est, paraît-il, assez mauvais.
The Ward, avec Amber Heard, je crois. Pour cette émission, on va se concentrer du coup sur quelques films. Comme tu le disais, son premier film Dark Star, mais aussi sa saga avec le fameux personnage de Snake Plissken, donc New York 97 et Los Angeles 2013, mais aussi Invasion Los Angeles et The Thing, le grand film d'horreur tellement culte. On va évidemment beaucoup spoiler ces films, parce que du coup on va en parler dans leur globalité. Mais je vais tout de suite laisser la parole à Quack, qui va nous parler de Dark Star, parce que...
Oui, Dark Star, premier film de Carpenter, ouais. Qu'il réalise, visiblement, il me semble que c'est un film de fin d'études, qu'il réalise et qui est remonté ensuite pour ressortir en salle, après qu'un producteur l'ait vu. Il existe du coup plusieurs versions de ce film, mais toutes les versions racontent à peu près la même histoire, c'est-à-dire l'histoire d'un vaisseau qui doit faire exploser des planètes. Et on vit surtout la vie collective du vaisseau de prime abord. Ensuite, il y a une sorte d'élément perturbateur qui arrive avec un extraterrestre qui a été embarqué parce qu'il est censé être mignon. Bon, il ne l'est pas du tout. L'extraterrestre ressemble à une espèce de ballon de plage qui aurait des pattes, en fait. Et le réel élément perturbateur arrive, vu qu'il finit par être tué, l'extraterrestre, alors qu'ils doivent exploser une planète, et que le vaisseau est peu potentiellement explosif, vu que la bombe a été activée, la bombe qui était censée faire exploser la planète. Et donc, du coup, les cosmonautes essayent de régler ce problème en essayant de mettre la bombe sur la planète. Ils n'y arrivent pas. Du coup, il y a une espèce de méthode assez drôle où un des cosmonautes essaye de raisonner philosophiquement avec lui pour que la bombe n'explose pas. Et elle finira par exploser, ce qui est quand même assez, assez ironique. Et au final, le final de ce film, qui est quand même assez délirant, c'est le cosmonaute qui finira par se suicider en surfant sur le débris d'un de ses vaisseaux. Donc du coup, je pense que le résumé peut définir le film en tant que film super délirant. Je pense que c'est quand même un délire paillard d'étudiant qui est sympathique pour ça. Mais je pense pas que ce soit qu'on puisse considérer que c'est son meilleur film ou un chef-d'œuvre, mais au moins un film intéressant, je pense.
Bah justement, parce que toi, Simon, t'avais vu le film, t'aimes beaucoup le.
Est-ce que c'est un chef-d'œuvre? Je sais pas, je pense pas effectivement, mais je pense que c'est quand même un très bon premier film en tout cas. C'est un film déjà qui est très drôle et c'est un film qui s'ancre vraiment dans l'univers de la science-fiction. C'est un film qui parodie beaucoup 2001, avec notamment le robot dont on doit discuter avec lui de phénoménologie, il me semble, pour...
Qui fait penser à HAL, du coup.
Penser à HAL. Ouais. C'est un film, voilà, on a beaucoup... Ce film est assez connu aussi, parce que c'est le scénariste de Alien qui a travaillé dessus.
Dan O'Bannon.
Il y a beaucoup de rapports avec Alien.
Voilà, il y a énormément de rapports avec Alien. Je pense que, effectivement, c'est pas un chef-d'œuvre, mais c'est quand même un film important. Et puis c'est un film aussi qui va marquer des thématiques qu'on développera aussi par la suite, mais c'est un film qui, c'est déjà une première rencontre avec l'altérité extraterrestre, qui est quand même quelque chose d'assez important dans le cinéma de Carpenter. Il y a un rapport avec la machine, etc. Voilà, je pense que c'est un film dont on pourra développer un peu plus tard, mais ça reste un film important, je pense.
Il y a balbutiement de ces thématiques, mais c'est pas non plus, c'est quand même beaucoup moins développé que dans Alive, quoi.
Non, effectivement.
Alors justement, je vais peut-être pas parler de Veilif tout de suite, mais on va par exemple se concentrer sur, parce qu'il a fait avant New York 97.
Je vais être très vite fait évoquer le diptyque Escape from New York, Escape from LA. Donc en fait, l'histoire est exactement la même. Hein. Le premier film date de 81 et le second de 96. Et en fait, il reprend exactement la même histoire à chaque fois. C'est-à-dire qu'on est dans un futur assez proche, mais un futur un peu apocalyptique où le crime aux États-Unis a augmenté de 400% et où on est obligé d'enfermer tous les criminels soit sur l'île de New York, soit sur l'île de Los Angeles. Et à chaque fois, en fait, ces criminels vont devenir des terroristes et vont soit kidnapper le président pour le premier épisode, soit voler une mallette avec des informations top secrètes pour le second épisode. Et en fait, on va appeler le héros le plus badass de toute l'histoire du cinéma, qui s'appelle Snake Plissken, qui est en fait un ancien héros militaire et qui est désormais un criminel un peu hors-la-loi, en tout cas au sein des États-Unis qui forment maintenant une entité politique un peu dictatoriale. Et du coup, ils vont appeler ce paria pour aller chercher soit le président, soit la mallette au sein de cette île de criminels.
C'est ce qui pour le coup, c'est ce que j'ai l'impression, enclenche vraiment ce côté très politique et critique de Carpenter sur la société.
Bah, c'est en tout cas ce diptyque. Je pense que c'est en tout cas les films les plus anarchistes de Carpenter. Il y a quand même une grosse veine anarchiste dans le cinéma de Carpenter. On pourra en discuter. Mais en tout cas, effectivement, ce sont des films qui sont quand même très politiques et souvent à outrance. Mais c'est aussi ce qui fait leur charme. C'est-à-dire que c'est pas des films très fins en fait. C'est des gros sabots. Mais en même temps, je pense que ça apporte une certaine finesse aussi.
On va reparler. Mais c'est qu'il y a une grande virulence chez lui. Mais il y a aussi un côté extrêmement charmant dans ces films que. Justement, par contre, on ne retrouve pas du tout dans The Thing, qui est absolument pas charmant sur le visuel.
Ouais, qui est un film. Alors, il me semble que c'est le plus gros budget avec lequel est travaillé Carpenter. Enfin, je suis pas exactement sûr, mais en tout cas, c'est.
Il y avait déjà beaucoup d'argent alloué aux effets spéciaux.
Il y avait beaucoup d'argent. C'est un film qui est produit par une major, par Universal. Donc, The Thing, c'est un film de 1982. C'est le sixième film de John Carpenter. Donc, toujours avec Kurt Russell, hein, qui est quand même un des acteurs. Fétiche de John Carpenter qui revient dans plusieurs de ses films, hein, on disait dans Les Griffes du Mandarin, ainsi de suite. Donc pour décrire brièvement l'histoire, alors déjà c'est un film qui est adapté d'une nouvelle qui est traduite en français par La Bête d'un autre monde, qui a donné lieu à une première adaptation qui s'appelle La chose d'un autre monde, réalisé par Christian, je sais pas si on dit Nibi ou Naibai. Ouais. Alors ce qui se dit beaucoup sur ce film, c'est qu'en fait ce serait réalisé en grande partie par Howard Hawks. Howard Hawks qui est un des maîtres à penser de Carpenter, je pense qu'on y reviendra par la suite. Donc voilà, il y a cette idée de reprendre un film de Hawks, de faire un espèce de remake dans un thème très science-fiction qui finalement recoupe Dark Star et New York 97 dans la question de l'enfermement, parce que là il s'agit de scientifiques dans une base, alors je ne sais plus
en si Antarctique.
C'est Antarctique. En Antarctique. Et en gros, il y a une entité alien qui émerge de la glace et qui peut prendre la forme humaine. Donc la question du film, c'est est-ce qu'on est soi-même ou est-ce qu'on a été remplacé par cette
double.
Bête. Et voilà. La question, donc après, je ne vais peut-être pas raconter tout le synopsis en détail, mais l'idée c'est que la bête tue les gens, prend leur place, donc on ne sait pas exactement qui est qui est quoi, et l'idée c'est qu'on est enfermé dans la base au milieu d'un continent glacé.
Ouais, c'est ce qu'on retrouve justement, cette idée de l'autre, de l'altérité, du double, en fait, dans Invasion Los Angeles, enfin, They Live en version originale. Donc, film de 88, si je ne dis pas de bêtises, oui, qui traite d'un personnage, en fait, qui est, entre guillemets, clochard, qui cherche un travail, qui arrive à Los Angeles, et qui, en fait, se retrouve pris dans une sorte de machination où en fait il va trouver des lunettes de soleil qui lui permettent de voir en fait un monde en noir et blanc qui révèle la face cachée d'un monde contrôlé par des aliens qui sont dans toutes les strates gouvernementales et qui en fait contrôlent le public, tout le système, et qui leur disent d'obéir, de se reproduire, d'acheter, de consommer, de ne pas réfléchir, etc. Et qui est donc probablement un des films les plus déjà anarchistes de presque anarchiste, en tout cas de Carpenter, qui est vraiment puisque c'est quand même un personnage, donc John Nada, le personnage principal, qui est absolument sans attache, qui est tout simplement un sans-abri classique, mais qui va se mettre à rejoindre une révolte pour pouvoir mettre à mal le système des aliens et les révéler au grand jour, quoi. Donc je pense qu'on va pouvoir justement après faire une petite pause, déjà une première petite pause, mais Denis, tu venais nous parler des films qu'on va pas parler de, justement, on va pas parler de tous les films de SF de Carpenter.
Oui, voilà, parce que Carpenter a travaillé très majoritairement, si ce n'est tout le temps, comme ça je dirais tout le temps, mais peut-être que je me trompe, mais dans le cinéma de ce qu'on peut appeler cinéma de genre, et notamment de la science-fiction. Donc là, on va pas parler de tous les films de science-fiction, pour des raisons qui peuvent être personnelles. On n'aime pas forcément tous les films, on ne va peut-être pas rentrer là-dedans, mais et aussi, voilà, peut-être qu'on a choisi les films qui nous semblaient le plus stimulants pour discuter des thématiques de John Carpenter, donc on n'évoquera pas tellement ou extrêmement brièvement un Ghost of Mars, qui est tant un pur film de science-fiction, hein, qui se passe sur Mars, qui a été colonisé par l'être humain, donc voilà, qui est un film... étonnant, on va dire, et je pense que le débat va rester qu'un film qui divise.
Voilà, c'est ça, on va rester
là. On va pas parler non plus d'un film comme L'Homme Invisible, qui, s'il est pas forcément un film de science-fiction, enfin, on peut le considérer comme de la science-fiction, puisqu'il s'agit
d'un
processus scientifique qui rend, invisible.
Il y a aussi Le Village des Damnés dont on va parler. Le Village des Damnés.
Voilà, il y a Le Village des Damnés, qui est aussi un remake, voilà, donc on peut pas tout évoquer, mais voilà, on va se concentrer sur ces films-là.
Sans oublier Starman non plus.
Starman qui est quand même un bon film en plus, mais bon, qui est sûrement pas son chef-d'œuvre, mais qui est un film aussi très intéressant.
Oui, justement, on peut l'évoquer très rapidement, mais c'est pas un film sur lequel on va se concentrer. Donc on va peut-être écouter un premier morceau qui sera de John Carpenter, qui est tiré du coup de le thème principal de Assaut. We'll be right back. de retour après cette première pause, donc une musique de Asso, qui est un remake de Rio Bravo, donc de Ward Hawks, grand fan devant l'éternel. John Carpenter était vraiment un grand fan de Ward Hawks. Et on va justement continuer cette émission sur ce dont on parlait avant. En fait, on parlait beaucoup de personnages entre guillemets anarchisants, extrêmement politiques, voire anti-système. Donc peut-être qu'on peut commencer justement avec un des plus emblématiques, Snake Plissken.
Oui, on peut commencer avec Snake Plissken du coup. Donc ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est on aura l'occasion d'en discuter avec Denis qui a priori est pas trop... pas trop d'accord du coup, mais voilà. Donc en fait, ce qui est intéressant avec ce personnage, c'est que c'est vraiment l'emblème d'une forme de critique en fait d'une Amérique très très puritaine. C'est-à-dire que les deux films, que ce soit New York 97 ou Los Angeles 2013, mettent en scène une Amérique un peu totalitaire, très puritaine, très religieuse dans le deuxième, très raciste dans les deux. Où il y a notamment dans le deuxième, on rencontre notamment une femme qui est déportée parce qu'elle est musulmane. Voilà, ça peut évoquer...
Oui, mais c'est carrément le même quand Snake rentre dans le centre au début, c'est un centre d'extermination.
Voilà. Et en fait, lui, il va représenter une sorte de survivance en fait, dans ce monde complètement englouti par le puritanisme américain. Et en fait, il va réussir à s'en détacher en étant justement détaché de tout, en fait. Un peu comme le personnage de Invasion Los Angeles et Liv. Et du coup, c'est vrai que pour moi, il représente une forme d'anarchisme en fait. À un moment il doit aller sauver le président, et lui répond: le président de quoi?
J'en ai affaire de ton président,
voilà, et puis surtout sous-entendu il y a plus de pays non plus, enfin voilà, c'est quand même c'est un personnage qui est assez haut en couleur à ce niveau-là. À la fin du deuxième épisode du coup, Los Angeles 2013, Snake en fait éteint littéralement les lumières du monde. C'est-à-dire qu'en fait, il met quand même à mal toute la technologie, et en fait, les humains se retrouvent dans le noir complet, et il dit justement bienvenue chez les humains, quoi. Enfin voilà, il y a quand même une veine assez anarchisante, pour pas dire anarchiste, en tout cas dans ce diptyque Escape from New York et Escape from Los Angeles.
Alors je suis plus ou moins d'accord, mais plutôt moins, dans le sens où déjà, je pense qu'il faut avoir à l'idée de qui est Kurt Russell. Kurt Russell, c'est quand même pas quelqu'un qui est très anarchiste. Hein. C'est quand même, on peut le dire, parce qu'on peut dire ce qu'on veut, c'est un gros facho.
Oui, carrément, c'est un gros
facho. Kurt Russell, c'est un acteur génial, mais c'est un gros beauf, quoi, c'est un gros con. Ça c'est dit. Non, mais je pense qu'il faut le préciser aussi. Parce qu'on voit que Carpenter, qui se définit plutôt comme quelqu'un à gauche, on va dire, hein, mais c'est toujours à remettre en position par rapport aux États-Unis, a quand même pour acteur un peu fétiche, ou des gens qui défendent James Wood, des gens comme ça. James Wood, c'est pas un humaniste, quoi. C'est des mecs qui sont bien verrouillés, bien conservateurs, voilà. Donc déjà, je trouve qu'il y a cette question-là. Ensuite, il y a une question, je pense que Torrey, en fait, qui connaît bien Carpenter, qui a travaillé sur lui, parlait de la question politique, et il disait: en France, on défend souvent Carpenter, notamment la critique ou le milieu universitaire, en disant ce qu'on aime chez Carpenter, c'est qu'il est un peu anti-américain. On dit souvent, on défend des réalisateurs américains en disant, ce qu'on aime chez les Américains, c'est quand ils n'aiment pas les États-Unis, ouais, d'Amérique, quoi. Alors que Carpenter, c'est un pur Américain. Alors, il se défend un peu, parfois, de sa ressemblance avec Ford. Mais moi, je trouve ce qu'il regrette dans les films, c'est le capitalisme déchaîné, certes, etc. Mais il rejette pas le capitalisme. Il n'a pas une vision qui s'oppose aux États-Unis. Il a une vision qui s'oppose à ce que les États-Unis sont devenus par rapport à ce qu'il aimerait qu'elles soient, qui est une vision que moi, je trouve assez... j'ai pas de problème avec ça, hein, mais assez démocrate, voilà, une vision un peu à la Ford, quoi, où il devrait y avoir la liberté d'entreprise, voilà, le fait que chacun puisse se développer, voilà, c'est des idées qui en fait sont profondément américaines, donc sont profondément libérales. Après, il s'oppose aux dérives de cette société marchande, mais s'y oppose parce que pour lui, elle dénature l'Amérique.
Pour le donc, coup, ouais, je te rejoins là-dessus, parce que John Nada, justement, dans Invasion Los Angeles, dit « I believe in America ».
Oui, bien sûr.
Il le dit lui-même, qu'il croit dans la doctrine américaine au début. C'est pour ça qu'il va absolument trouver un job, etc. Et quand il se rend compte qu'au final, ce truc est contrôlé par 99% en fait, entre guillemets, d'une race, mais bon, c'est les aliens, quoi, il est... il est révolté, donc évidemment, il veut tous les buter pour pouvoir retrouver cette Amérique en laquelle il croit, quoi.
Je trouve quand même qu'il y a aussi une espèce de retour à une forme d'héroïsme, peut-être pas classique, mais en tout cas évident dans les films de Carpenter, avec par exemple Snake Plissken, qui est littéralement, enfin, qui fait un peu presque un héros. Presque icône beauf au final, avec son espèce de coupe-mulet, ses gros flingues, etc. Une espèce de musculature un peu imposante, etc. Il y a quand même quelque chose qui tient d'une icône de film d'action. Et évidemment, c'est un peu nuancé par Carpenter. Le film n'est pas aussi cousu de fil blanc qu'on pourrait le croire, mais il y a quand même quelque chose qui je pense, relève d'une espèce d'esthétique assez film d'action, assez ancré dans le cinéma américain, qu'il faut pas non plus négliger. Pour moi, Carpenter, c'est pas juste un cinéaste anarchiste et anti-système, en fait. Pour moi, c'est quand même un cinéaste qui s'ancre quand même dans un certain système, dans un certain mode de représentation qui appartient à une représentation hollywoodienne, en fait.
Mais je rebondis sur ce que tu disais un peu, ce que tu évoquais un peu, que je trouve très intéressant, c'est-à-dire que les héros, en fait, chez John Carpenter, ce sont souvent des gens qui sont un peu déclassés socialement, ou en tout cas, sans être déclassés socialement, qui sont en bas d'une certaine échelle sociale. Et dans tous les films qu'on évoque, qu'on va essayer de développer un peu dans cette émission, il y a vraiment ça. C'est-à-dire que dans The Thing, Kurt Russell, il joue le conducteur de l'hélicoptère. Et c'est un de ceux qui va aller plus loin dans l'affrontement avec le monstre. Dans Invasion Los Angeles, Snake Plissken, c'est un paria. Snake Plissken est un paria. Dans Invasion Los Angeles, le héros est un journalier, il me semble, quelqu'un qui travaille sur des chantiers, etc.
Oui, enfin, à la base, oui, c'est même un sans-abri, hein, il a rien. C'est voilà, un routard, hein, le gars.
C'est un routard. Et du coup, je trouve que c'est quand même un aspect qui est quand même intéressant dans son cinéma. Voilà, et pour le coup, c'est vrai qu'effectivement, il y a une certaine de très Amérique profonde qu'on peut retrouver là-dedans, effectivement.
Ah, ouais. En gros, la figure du déclassé aussi qui s'élève contre un système qui est devenu corrompu, c'est quelque chose qui peut être dangereux aussi. Je dis pas que le cinéma de Carpenter est dangereux, loin de là, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. Mais on va dire que l'homme du peuple qui s'élève contre un système corrompu, comme dans un film comme Invasion Los Angeles, ça peut aussi poser des questions. Et je trouve, pour le cas de Snake, tu disais, c'est un peu une espèce d'icône virile. Ouais, c'est alors, ça. Évidemment, Carpenter joue avec ça, hein, et tout, contrairement à un film qui est hyper jouissif, moi je trouve, et qui est Conan le Barbare, où là, en fait, c'est un film qui est génial pour ça, parce que c'est un film, en fait, qui est hyper problématique, ce que ça dit. Chez Carpenter, c'est quand même plus complexe, parce qu'il joue avec les codes. Mais effectivement, Carpenter, je trouve, il est à la fois un cinéaste hollywoodien, à la fois non. Il est à la fois... anarchisant, enfin je comprends ce que tu veux dire quand tu dis qu'il y a une subversion chez Carpenter, on peut pas le nier, c'est vrai, mais aussi c'est un cinéaste profondément américain, et c'est pour ça aussi que je trouve que c'est passionnant de voir qu'il est entre deux mondes et qu'il navigue parfaitement, il sait ce qu'il fait, en plus il maîtrise très bien sa mise en scène.
Non mais justement, en fait, pour revenir sur la figure du déclassé, c'est quand même quelque chose qui est profondément américain. Enfin, les films de Frank Capra, c'est totalement ça. C'est-à-dire c'est l'homme du peuple qui finit par devenir un héros et qui finit par s'élever contre un système corrompu. Pour moi, c'est pas non plus si anti-système que ça comme manière de représenter une figure héroïque, en fait. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut quand même nuancer cet anarchisme.
Ce que chez John Carpenter, ce sont pas uniquement des hommes du peuple, ce sont des anti-héros. Oui, on parlait pour revenir sur vraiment ce qui se passe dans les films, on parlait de The Thing, et voilà, Kurt Russell joue quand même des héros extrêmement problématiques, genre voilà, alcoolique, un peu violent, machin, le coup du bandeau. Voilà,
un peu limité aussi, quoi. Enfin,
Parfois,
bon, ça reste Kurt Russell, quoi.
Je veux dire, voilà, donc il y a quand même une figure du héros populaire ou de personne qui s'élève comme ça, qui va combattre un système corrompu. Il le fait quand même d'une manière peu orthodoxe, ce qui n'était pas le cas chez Ford, quand on pense à Young Lincoln, ou chez, tu citais Capra, ou chez les cinéastes. Évidemment, ce n'est pas du tout la même époque, hein, mais il y a quand même autre chose. Il y a une certaine modernité. Je pense que c'est ça qui donne peut-être la subversion. Voilà, un mec qui picole, qui tabasse des mecs, va finalement s'élever pour changer des choses politiquement. par rapport, enfin, qui va défendre le peuple américain. Quoi.
Et d'ailleurs, c'est intéressant ce que tu dis, parce qu'il y a vraiment ça, en fait, il y a vraiment cette évolution dans le diptyque Escape From, c'est que Snake Plissken, qui au début, on a littéralement rien à faire de la situation des États-Unis et de l'aide qu'il pourrait apporter au pays, parce qu'au final, il se retrouve toujours dans une situation où, bien malgré lui, c'est lui qui détient les clés de l'avenir. Et en fait, à la fin, dans les deux, il fait toujours un acte politique assez profond. C'est-à-dire qu'à la fin du premier, il va échanger une cassette, sans raconter les détails, il va échanger une cassette qui va mettre à mal le président des États-Unis, et à la fin du deuxième, il va éteindre toutes les lumières du monde. Du coup, ce qui fait que se déclasser... au final, faire un acte profondément politique, quoi, qui va avoir un impact vraiment considérable, en fait.
Justement, je reviens sur l'idée de film populaire aussi, parce que justement, c'est ce qu'il y a si bien chez Carpenter. C'est dans Invasion Los Angeles, en fait, c'est le fait d'en faire un... C'est vraiment un personnage, un anti-héros, quoi. En plus, le mec, il s'appelle Nada, quoi. Il est rien du tout, quoi. Et le fait d'en faire tellement, en fait, quand il découvre la vérité sur le monde dans lequel il vit, c'est le fait de... Il va prendre un fusil à pompe et il va aller buter tout le monde en rentrant dans une banque, quoi. Il va dire, je suis là pour tous vous botter le cul, quoi, et je vais vraiment vous faire la peau, quoi. C'est ce côté extrêmement... jouissif, quoi, dans le fait d'en faire trop, quoi, dans le trop plein. Par exemple, dans Los Angeles 2013, cette idée que à chaque fois il va renforcer l'image de son héros, quoi. Il va à chaque fois renforcer le côté hyper badass de Snake Plissken au point de le faire surfer sur Insta. Voilà, il est tout le temps en train de revivre, il est tout le temps en train de survivre, enfin il fait carrément du surf sur un tsunami, enfin.
Ouais, et puis il est quand même blessé la moitié du temps, et ça l'empêche pas de sauver le monde au final.
On est au cinéma quand même, donc il faut se faire plaisir. Voilà, ouais. Je pense que c'est ça qui est intéressant chez Carpenter, c'est qu'il a une notion du plaisir cinématographique. Du moins, moi, dans les entretiens que j'ai lus, quand il parle de son cinéma, il dit voilà, il faut se faire plaisir, quoi. Il faut donner enfin, il assume parfaitement ce côté du divertissement. Divertissement qui peut être entendu dans plusieurs sens, mais pour lui, c'est le spectateur, il doit prendre plaisir à voir mes films, que ce soit par la peur, voilà, en fait, tout est optimisé pour le spectateur. Et d'ailleurs, il défend une théorie du montage invisible, par exemple. Il dit, voilà, le cinéaste doit s'effacer derrière son histoire, l'important, c'est de mettre les personnages en avant. En fait, il a une conception assez hollywoodienne, hein, comme tu disais, quoi, que du cinéma, quoi. L'idée, c'est, voilà, c'est de donner une histoire bien ficelée, voilà, ce qui est parfaitement respectable, mais je trouve évidemment il arrive à l'imbriquer avec un sous-texte, c'est pour ça qu'il a peut-être une position un peu particulière en France, qu'on classe parmi ces artisans-artistes ou auteurs, un peu un mec qui fait quelque chose de personnel et aussi du divertissement.
Alors que, ouais.
Moi, je trouve aussi que c'est intéressant parce que finalement, en reprenant des figures qui sont assez classiques, en fait, et en les transposant dans des genres qui sont finalement assez modernes, comme la science-fiction, entre autres, je trouve que Carpenter, il d'abord... Bon, non, la science-fiction,
je sais pas si je peux dire que la science-fiction est un genre moderne.
Non, mais un genre beaucoup plus populaire, en fait. On va dire que c'est presque un remplaçant du western, maintenant. Donc, c'est pour dire... En fait, c'est pour essayer de dire que Carpenter, on va dire qu'il participe à une sorte de nouveau cinéma, une nouvelle forme de cinéma populaire, en fait, et pas forcément populaire dans le sens succès public, en fait, mais juste un cinéma qui est vraiment super apprécié, qui a un cercle de culte. Enfin, c'est vraiment un type qui a un culte énorme, Carpenter. Donc, je pense que c'est quand même quelqu'un qui me semble assez important dans le cinéma hollywoodien pour ça, en fait. C'est-à-dire que c'est quand même une figure qui est à la fois... on revient un peu sur ce qu'on disait, à la fois à la marge et à la fois dans le système, en fait. C'est quand même vraiment, pour moi, c'est vraiment ce qui m'intéresse le plus chez Carpenter, plus que ces films qui au final m'indiffèrent, mais ça c'est une considération somme toute personnelle.
Juste, je sais pas si vraiment on peut le classer comme cinéaste hollywoodien, dans le sens où il a quand même travaillé pour la plupart de ses films dans une forme d'indépendance,
beaucoup,
hein, au début. Surtout à la fin aussi, maintenant là il est revenu à vraiment une totale indépendance, il travaille pour des toutes petites structures, il a dû beaucoup naviguer avec la télévision aussi pour travailler, parce que les mecs voulaient pas financer ses films, donc Dire qu'il est hollywoodien, ouais, ça dépend dans quel sens on l'entend.
J'entendais pas forcément dans le sens il fait des films pour Hollywood, mais c'est un film qui fait des films, on va dire, populaires, quoi. C'est ce que je voulais dire par cinéaste hollywoodien, c'est-à-dire qu'un cinéma qui est quand même, il me semble, dans une idée de spectacle ou de plaisir, de divertissement, comme tu l'évoquais. C'est comme ça que je pensais hollywoodien, pas forcément dans l'argent qu'il a, puisqu'au final, c'est un cinéaste qui est finalement assez pauvre et qui fait souvent avec trois bouts de ficelle, tout ça.
Ouais, on peut le voir justement peut-être comme un de ses précurseurs qui a du coup incité, outre le fait en France avec par exemple Jean-François Richet qui a fait le remake, si je dis pas de bêtises, de Assaut sur le Central 13.
Il semble qu'il l'a juste produit.
Il l'a réalisé aux États-Unis, génial, il me semblait bien. Mais justement, c'est ce genre d'auteur en fait qui a réussi à rendre ce côté très subversif. De beaucoup critiquer la société et de au final en influencer beaucoup d'autres en fait qui aujourd'hui par exemple on en parlait déjà la semaine dernière hein, des auteurs très actuels qui aujourd'hui essaient de reprendre un peu le flambeau quoi
et se revendiquent d'eux en plus.
Oui, évidemment.
Moi, je trouve surtout en fait que Carpenter, il a vachement influencé un monde qui est finalement parallèle à celui du cinéma, c'est celui de la musique en fait. Parce que la musique des films de Carpenter, je sais pas si, enfin, honnêtement, ça envahit, ça commence à devenir super populaire. Il y a des reprises modernes qui sont, enfin, contemporaines plutôt, qui sont quand même très très proches de ce que faisait Carpenter. Il suffit de voir le groupe Carpenter Brut, le nom est dans le nom du groupe, il n'a pas été choisi au hasard. Et même, enfin, du coup, même des films comme, peut-être pas ce film-là, mais je pense à Drive, en fait, mais c'est surtout pour l'ambiance un peu musicale.
Mais c'est vrai, ce retour du synthé très rétro, entre guillemets, justement, est complètement hérité de Carpenter, comme oui. Tu dis, Carpenter Brut, mais on voit même, en fait, des réinterprétations encore aujourd'hui de ces musiques. Mais on va peut-être justement faire, avant de passer à notre troisième partie, écouter un nouveau morceau de John Carpenter qui sera tiré du thème principal de The Fog.